On va passer avec une autre communication, toujours en restant un peu à cheval entre le bloc de l'Est et ce qui se passe dans la mouvance punk, avec Samuel Etienne, qui est donc chercheur à l'EPHE.
Bonjour. Donc moi, je vais vous parler en fait des échos des scènes punk de l'ancien bloc de l'Est à travers les fanzines français. Je vais pas préciser dans le titre, ça me semble évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Donc à l'origine, c'est un travail que j'ai fait qui était un peu plus large que, on va dire, les fanzines punk, qui était plus sur les fanzines en général et puis les scènes alternatives des anciens pays du bloc de l'Est. Donc à peu près depuis le milieu des années 70. Je suis géographe de formation, donc ici c'est plutôt ce que je vais vous présenter parce que c'est assez court. C'est une approche un petit peu spatio-temporelle d'inventaire et puis de cartographie assez générale. Essayer de voir d'où vient l'information au niveau des États qui étaient couverts, comment arrive-t-elle en France, c'est-à-dire avec quels sont les vecteurs médiatiques. Et puis après, il faudrait, mais là, ça serait plus une étude pluridisciplinaire, même si j'aurai peut-être le temps de commencer tout à l'heure l'analyse un peu plus politique, culturelle, sémantique, éventuellement du contenu. Alors, la méthodologie repose sur l'analyse d'un corpus de fanzines, principalement la fanzinothèque de Poitiers, complétée par punksforum.net et puis ma collection personnelle de manière un peu plus marginale. Je vais le détailler tout à l'heure. Le critère qui était pour moi important, pour ceux qui étaient là il y a 4 ans, lors des premières journées PIND, j'avais fait déjà une présentation sur une cartographie à partir des fanzines. Ce qui m'intéresse, c'est les degrés d'interaction entre les fanzineurs, neuneuses, et puis les acteurs. Donc entre là, le pôle, c'est-à-dire le fanzine français, et puis les acteurs ou les scènes distantes. Pour moi, les degrés de pertinence que je retiens, c'est lorsqu'on a des interviews, parce que là, il y a la rencontre, il y a un échange direct. C'est les scènes reports. Là encore, il y a quelque chose d'assez important, les reportages photographiques, les auteurs étrangers qui participent, etc. J'ai exclu ce qui relevait des simples chroniques de disques ou de livres. C'est-à-dire, vous pouvez chroniquer un disque édité par un groupe de l'Est, mais vous connaissez rien au pays, finalement. Vous faites juste une critique musicale. Donc ça, pour moi, c'était pas un degré d'interaction suffisant pour être retenu dans mon corpus de fanzine. Alors, juste quelques exemples. Là, bah, Earthquake, on a une interview du groupe bulgare Comfront. Donc là, pour moi, c'est une interaction qui est pertinente et je vais le retenir. J'ai le regret à la joie mêlée. Hein, c'est pareil. Là, on a un scene report qui vient de République tchèque. Et on le voit, salut, je ne sais pas si c'est lisible pour vous, là-haut, donc salut, mon nom est Roman, j'aimerais vous parler de la scène hardcore, des zines, etc. Donc là, on a un correspondant hein, de République tchèque qui envoie un reportage qui est publié dans un zine français. Donc pour moi, là, c'est une interaction qui est pertinente. Et puis, ça peut dépasser le cadre simplement musical et être un peu plus sociologique ou sur les pratiques. Bon, ben, dans un skin zine, on a un truc sur la bière, là, notamment la bière en Tchécoslovaquie, c'est un reportage dégustation comprise. Donc à partir de là, j'ai interrogé les différentes bases de données avec des mots-clés, principalement les noms de pays et puis toutes les variantes qu'on peut trouver. Ça m'a permis, sur les trois bases citées, d'obtenir, vous voyez, la fanzinothèque, première colonne, on est tout en bas. Vous avez les mots-clés, c'est simplement les noms de pays. Donc 618 volumes qui ressortent d'un fanzinothèque. Et à partir de là, il faut faire un tri, suivant les degrés de pertinence que je vous donnais tout à l'heure. Et aussi, j'ai pris que les fanzines français. Donc j'ai exclu, par exemple, des fanzines roumains qui sont à la fanzinothèque, mais qui sont pas, du coup, là, vont pas être pertinents. Donc, au total, j'ai 171 volumes à la fanzinothèque. Je rajoutais Punks Forum, 29. Et puis, dans ma collection personnelle, il y en avait 14 qui n'étaient pas dans les deux autres bases de données. Donc, au total, j'ai à peu près 214 volumes utiles. Pour la fanzinothèque, je suis allé ensuite consulter sur place, vérifier que ce qui était répertorié a priori avec une interrogation à distance était là encore pertinent. Ça a permis de corriger des problèmes d'indexation de fanzines biélorusses qui étaient mis en Ukraine, etc. Donc bon, ça c'est assez classique. Donc d'ajuster finalement la base de données. Aussi d'écarter ce que j'appelais les faux positifs. Par exemple, là dans Alerte Rouge, le hors-série qui était sorti avec la compilation Record Mifraction, on avait répertorié l'Albanie parce que vous avez une page sur, vous voyez, Attila the Stockbroker qui est anglais. Donc là, c'est un faux positif qui peut ressortir. Donc voilà, il y a un travail d'élagage après du corpus. Donc juste pour le plaisir des yeux, les différents types de fanzines par génération. Donc l'année 80, vous voyez, New Wave, Alienation, No Government. On voit bien New Wave en couverture, par exemple, Rock en Pologne. Toujours années 80, Manifeste, Invocation Macabre, Gabba Gabba Fuck, avec à côté on voit un reportage sur la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Années 90, Are You Man, Are You Mouse, je vais reparler de certains de ces fanzines tout à l'heure, Guerrier Urbaine, et puis un autre, là vous voyez Adala Faradav, où on a l'alphabet cyrillique par exemple qui est mis en couverture, on voit une certaine appétence pour les pays de l'Est, et puis plus récemment, décennie 2000-2010, Hey You, là encore un gravzine, parce que j'ai rentré de Vagina Serbia, donc là c'est un tour report du groupe nantais Vagina Town, hein, qui était dans, on voit la couverture, en ex-Yougoslavie. Donc ça aussi je les ai inclus parce que c'est simplement graphique, mais ça fait partie de témoignages, là en l'occurrence d'un groupe français qui va tourner dans un ancien pays de l'Est, une ancienne Yougoslavie. Et puis le plus récent, là, Outrage, un fanzine français anglophone. Donc il est anglophone, mais il est publié en France, donc je l'ai quand même inclus, parce que c'est un moyen de disséminer de l'information. Donc là, Outrage, vous voyez, 2009, Toulouse. Avec notamment une expérience de vie dans un squat en République tchèque. Alors, sur les résultats, ma typologie... D'abord, on se rend compte que 80% du corpus est constitué de fanzines musicaux. 8,5% de gravzine, hardzine, bdzine, et puis des zines politiques à 5%. Alors après, les plus anciens, par exemple, trouvés dans le corpus 77, c'est Incendie de forêt, c'est plutôt un fanzine de poésie, hein, même si c'est minoritaire, c'est 3% du corpus, c'est les plus anciens que j'ai pu retrouver. Anthracite, c'est plus un gravzine. Dans le temps, il y a une assez forte variabilité, mais c'est pas forcément les temps les plus anciens qui sont les moins représentés. Il y a aussi des années blanches. Alors ça veut pas dire qu'il y a rien eu de publié. C'est le problème du fanzine en général, c'est que ils sont pas répertoriés, ils sont pas généralement pas à la BNF. Donc c'est plutôt une difficulté à exhumer des archives qui sont disséminées dans l'espace, qui vont expliquer parfois ces années blanches. On voit qu'il y a à peu près 5 fanzines qui ressortent par an depuis 40 ans. Petite différence un peu significative entre avant 89, après 89. Hein, j'ai pris cette année pivot, chute du mur. À peu près 4 fanzines par an avant et 5 après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une période qui ressort quand même, c'est 85-94, où là, on a en moyenne, ce qui ressort, c'est 9 fanzines par an qui s'intéressent au pays de l'Est, c'est 43% du corpus. Donc là, c'est vraiment une décennie assez, assez importante. En termes de pays représentés, de répartition géographique, on se rend compte qu'il y a là encore une forte variabilité entre la Pologne qui fait plus de 20% du corpus et puis des pays comme la Lettonie, la Slovaquie, c'est même pas 0,5%, mais il y a un Big Four qui ressort. Le Big Four, c'est Pologne, Hongrie, Yougoslavie et puis Tchécoslovaquie, République Tchèque, Slovaquie. Alors ça c'est un peu compliqué à traiter quand ces pays qui se disloquent. Donc du coup, pour le traitement, là je les ai rassemblés. J'ai considéré que la République Tchèque et la Slovaquie, c'était un ensemble avec la Tchécoslovaquie. Après, il faudra affiner, évidemment. Mais comme les pays se partitionnent pas forcément à la même date, ça aurait fait une présentation un peu compliquée. Donc voilà, ce qu'il faut retenir quand même, c'est ce que j'ai appelé ce Big Four, hein, des quatre grands pays couverts. Donc on le voit ici avec New Wave, hein, la Pologne et la Hongrie, par exemple. En termes de cartographie, on se rend compte que finalement les pays, ce Big Four, c'est aussi les plus proches. On pourrait dire là, c'est la première couronne, hein, en termes de périphérie de l'Europe de l'Ouest, de la Pologne à la Yougoslavie, avec l'exception, c'est l'Albanie. C'est presque pas étonnant. On sait que le pays a quand même toujours été très fermé. Et puis la RDA. Alors la RDA, c'est un truc que je vais encore creuser. Je pense que c'est un problème d'indexation souvent. Hein, c'est Berlin qui va être mis, et donc finalement, c'est Berlin Est, parfois Berlin Ouest. Donc là, il faudrait creuser davantage. Où c'est Allemagne, et donc du coup on ne sait pas si c'est Allemagne de l'Est ou Allemagne de l'Ouest. Donc là c'est à creuser encore, mais en tout cas on va dire première couronne qui semble plus importante. Alors maintenant, l'idée c'était de voir est-ce que le portrait qui est dressé comme ça à travers ces fanzines est représentatif. Donc on se rend compte que il est probablement biaisé, lié au corpus lui-même, c'est-à-dire notamment une grande partie vient de la fanzinothèque qui est une bibliothèque généraliste de fanzines, mais dont le cœur de métier originel est ancré dans les fanzines musicaux, même si depuis 20 ans, sur les 30 années d'existence de la fanzinothèque, on a des zines graphiques et de bandes dessinées qui prennent de plus en plus d'importance. Donc ça peut expliquer ça, ce point important. Par contre, dans le cadre de PIND, là, du coup, c'est plutôt pertinent, parce que ce qui ressort, c'est effectivement essentiellement des fanzines de punk et de hardcore. Maintenant, pourquoi ce Big Four, là, c'est la première piste d'analyse. Et je dirais qu'il y a des choses très différentes qui ressortent. Par exemple, la Pologne. Sur la Pologne, ben, l'intérêt de la presse française pour la Pologne a été particulièrement vif au cours des années 80, lorsque la France, sous la présidence de François Mitterrand, a offert une aide humanitaire et financière durable à la fois au régime de Jaruzelski et au syndicat Solidarnosc. On sait que la presse française a également contribué de manière significative au soutien moral et financier de Solidarnosc au cours de cette décennie, années 80. Mais cependant, en véhiculant souvent de faux stéréotypes, soit par incompétence ou par idéologie, les journaux français ont également offert une image déformée de l'actualité polonaise. Ça, c'est expliqué dans la thèse de Pierre-Étienne Penaud, il y a quelques centaines de pages. Quand je dis par incompétence ou par idéologie, ce sont ses propres mots, hein, issus d'un travail de thèse. On a parlé d'ingérence informative aussi des partis politiques français, qui était très forte à l'époque. Et donc, pourquoi pas penser que l'intérêt marqué des fanzines français pour la Pologne dans la décennie 80 pourrait être interprété comme une volonté d'offrir des échos alternatifs en provenance de Pologne, hein, un intérêt pour les scènes alternatives polonaises qui serait alors une réaction directe à l'image biaisée construite par les médias grand public, finalement quelque chose d'assez classique, hein, dans les fanzines. Rappelez-vous les fanzines anglais du milieu des années 70, Sniffing Glue, etc. C'est une réaction par rapport à la presse musicale qui offre une image déformée ou incomplète ou incomprise du punk. Donc là, on serait au niveau, on va dire, macro-social. Ensuite, si on prend la Hongrie, eh bien, l'intérêt pour la Hongrie est plus énigmatique si on essaie de s'adapter justement à la couverture générale de l'actualité. Et là, il faut passer à une analyse qui est plutôt une micro-analyse, et c'est-à-dire souligner l'importance de l'intérêt individuel ou des racines familiales pour expliquer l'importance des informations provenant de Hongrie. Alors par exemple, en décembre 86, on a Eddy Basset de Villefranche-sur-Saône, qui est animateur d'émission radiophonique Apocalypse Now, 83-85, qui a commencé à publier Il fait froid chez nous, dont le sous-titre était Tsamizdat du groupe post-punk hongrois Trottel. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il s'agit d'une traduction littérale du fanzine publié par ce groupe punk hongrois. Et quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, en avril 87, Eddy Basset va lancer son propre fanzine punk, Kalachnikov. Les deux fanzines vont finir par être publiées sous le titre commun Vent d'Ouest, Vent d'Est, jusqu'en 90, date à laquelle il cesse de paraître. Alors Eddy Basset, qui est né en 64, il s'est rendu à Berlin pour la première fois en 82, puis il a voyagé en Europe orientale, de la Finlande à la Hongrie, comme il le dit lui-même, lors de plusieurs circuits itinérants jusqu'en 1985, voyage pendant lequel il a noué des contacts directs avec des acteurs culturels locaux, et il va s'en servir par la suite pour alimenter son fanzine. Donc c'est vraiment de l'information de première main. L'année où Vent d'Ouest a cessé sa publication, 90, eh bien, un nouveau zine est arrivé. C'est Are You a Man or Are You a Mouse, qui est apparu sous la main de Bruno Zologgi, alias James le Hongrois, qui est né en Hongrie mais qui réside en banlieue parisienne. Donc I Am Oyam, l'acronyme a duré 7 numéros jusqu'en 92. Et là encore, on aura la Hongrie en permanence. Ça va expliquer certainement pourquoi on a un point important. Jusqu'en 92. Et on a ensuite, en 93, apparaît immédiatement, avec un clin d'œil d'ailleurs à Bruno Zologgi, va apparaître d'abord Primitive Bunko, puis ensuite Totalitarism. C'est la même personne qui le fait. C'est édité à Saint-Pourçain-sur-Sioule, donc en Allier, une petite ville, 4-5 000 habitants. Publié par Fabrice Mijon, alors d'une part le titre lui fait référence au groupe anarcho-punk sibérien Gradanskaya Oborona, je ne vais pas le répéter non plus. Totalitarisme a publié au moins 29 numéros jusqu'en 2003, et l'auteur a avoué lors d'un entretien approfondi publié dans Déviance numéro 8 en 2002 qu'il avait toujours été intéressé par les pays de l'Est, parce que dans son enfance dans les années 70, l'existence du rideau de fer coupant l'Europe en deux le fascinait. J'avoue que moi, c'est pareil, cette image du rideau de fer, quand on était gamin des années 70, c'est un truc un peu nébuleux, et il y avait une certaine fascination. Mais lui, en plus, il séjournait très souvent chez son arrière-grand-mère, dont les voisins étaient polonais. Donc du coup, il adorait parler avec eux, de la Pologne, etc., et il a poursuivi par la suite. Il est ensuite parti dans le sud de la Pologne deux fois, en RDA, ce qui lui a permis, de nouveau, d'avoir des contacts privilégiés avec ces scènes punk, on va dire orientales, Et là, pour la Hongrie, on se rend compte que sur 16 ans, sur une période de 16 ans, on va avoir 3 fanzines successifs qui vont couvrir les scènes alternatives, et notamment punk hongroise. Donc une certaine continuité par 3 fanzines différents, animés par des gens qui ont un intérêt particulier, voire généalogique, pour la Hongrie. Dernier exemple sur dans ce Big Four, c'est Tchécoslovaquie-Yougoslavie. On reste à l'échelle un petit peu individuelle, microsociale, et là on a un individu comme Luc Haas, qui était très actif dans la, qui est de Strasbourg, qui était très actif dans la diffusion d'informations sur les pays de l'Est par le biais de ses propres fanzines. Donc là vous voyez Lucas Air Rising Travel and Tour Unlimited. Il avait fait aussi avant un fanzine qui était sur la Pologne, Mala i Volucia. Et c'était aussi alors, ses propres fanzines, mais surtout c'était un contributeur important de fanzines notoires, New Wave, Kalachnikov, Sub Rock, pour ceux qui se souviennent de cette expérience un petit peu en kiosque hein, de New Wave qui avait fait long feu. Donc, basé à Strasbourg, je l'ai dit, Lucas avait l'habitude de se déplacer en voiture en Europe de l'Est, coopérant notamment avec la Croix-Rouge pendant la guerre de Yougoslavie, où il amenait du matériel humanitaire, et de rendre compte de son voyage et de ses contacts avec des artistes locaux selon une écriture de type persine, hein, fanzine personnelle, donc, où on se met en scène. Au milieu des années 80, il fonde et dirige le label Ukrutnost Tapes et sort plusieurs disques de groupes tchécoslovaques en particulier. Ce qui était aussi intéressant avec Luc Haas, c'est que parfois il publiait les mêmes articles ou interviews dans différents fanzines. Par exemple, dans Gabba Gabba Fuck 15 et Invocation Macabre 2 en 86, on retrouve le même article. Et ça, cette stratégie de duplication de l'information est très particulière aux fanzines où l'exclusivité n'est pas obligatoire, le copyleft est largement accepté. Et donc l'information est diffusée sur un plus grand territoire en France à l'aide de multiples petits relais médiatiques. Ça, c'est intéressant. Et Lucas l'a bien pratiqué pendant une dizaine d'années. Donc, je conclue. On va se rendre compte que les fanzines peuvent être une source documentaire pour dresser le portrait de scène culturelle distante. Bon, c'est pas une découverte. La couverture géographique, là, je me rends compte, pour les pays de l'Est, elle est assez proche, finalement, de celle des médias mainstream. Donc, on se pose la question, il va falloir creuser sur est-ce que c'est par réaction ou est-ce qu'il y avait des canaux privilégiés de circulation. On se rend compte que, souvent, l'importance des parcours, des histoires personnelles, des fanzineux, explique l'intérêt pour tel ou tel pays. Et puis, dans les perspectives, dans la suite, ben, Je cherche à retrouver hein, ces acteurs-là. Alors Lucas, je suis en contact avec lui, ça fait, on échange des mails, mais toujours pas eu les réponses. Eddie Basset, je ne trouve pas. Fabrice Mijon, je ne trouve pas. J'ai beau essayer avec des contacts distants. Après, ben, poursuivre, je pense, l'analyse sociopolitique. J'ai commencé sur la Pologne, mais c'est pas ma spécialité. Je pense que si on avait des historiens, spécialistes de sciences politiques, ça serait certainement plus intéressant. Et puis peut-être l'analyse du contenu aussi sur essayer de qualifier l'information qui est diffusée dans ces fanzines. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez le temps. Puisque j'ai la parole, je prends juste 10 secondes pour dire, j'ai laissé un flyer à l'entrée. Je lance une revue sur les fanzines, la culture zine, pas que musicale, hein, sur les médias amateurs et DIY, revue académique, mais pas que. Donc, vous êtes invité à contribuer si vous voulez. Il y a le flyer sur la table là-bas. Voilà, merci.
Merci Samuel pour cette intervention très détaillée et très intéressante. Et effectivement, ça ouvre des portes parce que ce serait vraiment intéressant de pouvoir ramener Luc Haas ici, qui a été un activiste fanzineux très très prolixe. Hein, ce serait bien de faire venir Patrick de New Wave par exemple pour parler aussi de ces premiers contacts qu'ils ont eus avec un territoire extra français quoi.